C'est la deuxième heure de ce 1230e Sweet Home Chicago et c'est Arnaud Fradin qui est invité à l'occasion de la sortie de 1975 de son band Maltin Meek, le disque du mois de mars pour Sweet Home Chicago. Arnaud Fradin évoque ses débuts, les musiciens qui ont évolué au sein du groupe depuis un quart de siècle déjà, le travail de chacun au sein du groupe, les aides extérieures récentes à propos de Marco Cinelli notamment, et puis les questions aussi des conditions d'enregistrement de l'album, des types d'influences qui nourrissent Maltin Meek, du rôle de la guitare dans l'équilibre des compositions, des thématiques des chansons et de la réalisation du clip de Love for Yourself par Julien Dubois avec notamment Florian Royot, un acteur bluffant. Une interview d'Arnaud Fradin en partie menée avec Martin et Noah, 15 ans chacun, stagiaires à Radio 666, scolarisés au collège lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair, ce qui permet un regard neuf sur la découverte de la musique de Maltin Meek et son impact auprès d'une nouvelle génération de fans potentiels. L'occasion d'aborder des phénomènes d'écoute en streaming et le rôle des réseaux sociaux pour faire vivre un groupe aux yeux de ses fans et puis d'échanger sur les changements de notre temps également. De noter les deux dates de concert de Release Party de 1975, le 28 mars à Nantes et le 31 mai à Paris. Une interview captivante et instructive avec de larges extraits, bien sûr, de l'album de Maltin Meek 1975.
Soul and funk and rhythm and blues.
Je suis au téléphone avec Arnaud Fradin. Bonjour Arnaud, tu vas bien ?
Salut, très bien, et toi ?
Oui, super. Arnaud Fradin, leader de Molten Milk depuis un bon petit moment. J'ai l'impression que tu as passé maintenant, ça y est, la moitié de ta vie, ou presque, voire plus, je ne sais pas, avec ce groupe Molten Milk. Est-ce que tu peux nous retracer ton parcours, allez, pour symboliser la sortie de ton album, depuis 1975 jusqu'à aller vers 98. Il s'est passé quoi avant la création de Molten Milk, en deux mots, Arnaud ?
Moi, j'ai commencé la musique très tardivement, donc je n'ai pas forcément commencé au conservatoire à l'âge de 5 ans.
Ouais.
Mais je vraiment découvert tard, quoi, plutôt vers 14 ans.
Mmh.
Du coup, avant ça, c'était plutôt le skate. J'avais une passion pour le skate, donc plutôt le sport. Et puis, là, quand j'ai découvert la guitare, c'était un peu une révélation pour moi, parce que c'était j'ai compris que c'était pour moi un moyen d'expression, au-delà du sens du texte, hein, mais dans l'expression, l'exclusivité avec l'instrument.
Ouais.
Et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, moi, ça a été un idiome qui m'a permis de me sortir de ma coquille, parce que j'étais un gamin qui était plutôt renfermé sur moi-même, mais bon, j'allais bien. Hein. Mais voilà, et du coup, ouais, c'était vraiment une découverte, quoi, qui m'a tout de suite porté.
Ouais, c'était la guitare plutôt tout seul dans ta chambre ou déjà devant?
Ouais. Ah ouais, c'était vraiment très. D'ailleurs, au début, je jouais beaucoup de guitare acoustique, et puis je jouais dans des petits groupes locaux. Enfin, j'ai commencé à intégrer un groupe local avec des gens plus âgés qui jouaient du blues. Et là, je jouais vraiment que de l'acoustique. Puis d'ailleurs, je me prédestinais pas à l'époque de faire de la guitare électrique. C'était vraiment un truc que je n'avais pas envie.
Ouais.
Et puis après, c'est venu avec le temps, en découvrant Chicago Blues et tout ça. Mais c'est venu un peu plus tard, ça. Mais au départ, j'étais vraiment bloqué sur Muddy Waters, Robert Johnson, Alton Hopkins et quelques trucs comme ça.
Les pionniers de ces musiques-là, finalement. Et puis
exactement, tout à fait. Ouais.
C'est un peu ça qui t'inspirait au tout début de Molten Milk. Il y a eu pas mal de choses qui sont, bien sûr, un groupe qui existe depuis 25 ans au total. Est-ce que tu sais combien de musiciens sont passés dans Molten Milk, d'ailleurs?
Si je te dis le nom, je pense que tu vas un peu halluciner.
C'est comme Deep Purple, non?
Mais nous, on est. En fait, disons qu'après, il y a eu beaucoup d'instrumentistes différents, parce que forcément des bassistes, des batteurs, mais bon, il y a quand même. Je pense, on a compté l'autre jour, je suis déjà. Alors après, c'est stable depuis 10 ans, hein, donc ça va.
C'est vrai.
Maintenant, ça va, mais il y a eu quand même, je pense, 8 batteurs en tout, 4 bassistes, je pense, ou 5. Donc, ouais, en tout, j'avais compté une fois, mais il y a 10 ans. J'avais compté, alors, pour rigoler un peu, parce que c'était aussi en comptant des remplaçants cuivre.
Ah oui, en plus.
Régulièrement remplacé.
J'imagine.
J'arrivais à 50.
Oh là 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 là, énorme. Deux fois plus que d'années par rapport à l'existence.
Mais après, là, c'est vrai que c'est stable maintenant. Et puis, il y a eu une époque où ça a pas mal bougé aussi, parce qu'il y a l'époque avec Manu, l'harmonica. Après, bon, quand il est parti, c'est vrai que j'ai un peu orienté encore plus vers la soul. Donc, j'ai pas remplacé l'harmonica de Manu, parce que c'était très bon, pour moi, particulier comme jeu et tout ça. Je me disais que finalement, son jeu était très proche d'un organiste, en fait. Donc, une fois que Manu avait arrêté, là, en 2007.
Oui, je crois que c'est ça. C'est à peu près l'année charnière, 2007-2008. Mmh. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Igor à la basse. Je me souviens même plus qui était bassiste avant Igor, figure-toi, parce que ça fait quand même 14 ans qu'il est là.
Il y a une transition, en fait, il y a une petite transition entre Sweet Soul Blues, quand Sweet Soul Blues est sorti, c'est là où on a trouvé le tourneur, et puis, Louis Vanda à l'époque, et puis, Dixie Frog qui a sorti l'album.
Oui.
Et ça a juste coïncidé, en fait, cette période-là a juste coïncidé avec, parce que l'album, c'est pas Igor, c'est pas l'équipe qui a eu après qui a enregistré. C'est Fabrice Bessoit et, Cédric Goyen, bassiste d'Antlais. Et c'est là quand après, Igor est arrivé pour remplacer le bassiste, petit à petit, c'est vrai que toute l'équipe de Spoonful est arrivée. Et puis, ça coïncidait à un moment donné où, moi, je voulais consacrer plus de temps en groupe, jouer avec des musiciens qui n'étaient pas toujours disponibles. Donc du coup, c'est vrai, quand les jeunes sont arrivés de Caen, tout de suite, ça a créé un élan,
ouais.
En fait, qui correspondait aussi à ce qui se passait avec Sweet Soul Blues, parce que Sweet Soul Blues, effectivement, ça a été un peu le départ des tournées avec les cuivres. Donc c'était vraiment une belle période, parce que c'était vraiment une super belle émulation.
Arnaud, on pouvait t'en vouloir un petit peu, parce que tu nous as inspiré pas mal de musiciens canais. Et puis, tu joues aussi parallèlement dans ton autre projet,
Bruce Combo,
avec Bruce Combo, tu joues avec Thomas Troussier, qui lui aussi vient de
Caen. Tu nous as pillé
les musiciens canadiens, effectivement.
Ah, ceux qui sont venus, hein. Moi, je n'ai même pas été les chercher.
Ah, je sais pas, ça demande à être prouvé, ça.
Je rigole. Non, mais en tout cas,
Voilà, au sein du groupe, tu viens de le dire, il y a eu pas mal de mues, et puis des mues musicales, des mues artistiques, avec des sensibilités un peu différentes. C'est vrai que tu t'es tourné beaucoup plus vers la soul. Et puis au niveau mues, j'ai l'impression que tu as fait un travail considérable sur ta voix également, Arnaud, non ?
Ouais. En fait, j'ai.
Comment tu t'y es pris ?
En fait, j'ai passé du temps, parce que, disons que je continue aussi à essayer de progresser, aussi d'avoir une pratique aussi un peu irréprochable sur l'accent anglais, parce que j'estime que si on chante en anglais, bah, faut assumer de chanter en anglais.
Tout à fait.
Et que ça fait partie de la musicalité. Donc, on a travaillé avec Marco sur les textes, et puis c'est lui qui a écrit une grosse partie des choses. Mais
voilà, Marco Cinelli, effectivement, on va en parler tout à l'heure de Marco Cinelli.
Et après, bah, même si Marco était plutôt bilingue, parce qu'il vit à Londres depuis longtemps, et puis c'est vrai qu'il parle très bien anglais. Mais cela dit, ça n'a pas empêché qu'on fasse appel à un ami à nous qui s'appelle Mike McDorman, mm-hmm. qui est avocat d'affaires et qui est aussi musicien. Et qui habite à New York, qui lui corrige souvent les textes de Marco d'ailleurs, de manière générale. Et puis du coup, là, on l'a contacté, il était d'accord, donc il nous a corrigé les trucs, il a essayé de nous expliquer que certaines choses se diraient plus de cette manière-là que ce que nous on avait écrit, pas que ce que Marco avait écrit. Donc du coup, c'était hyper intéressant. Puis après, il a aussi également été là pour nous corriger sur l'anglais. Donc j'ai fait des prises de voix sur des morceaux, fait des essais aussi sur les, pas les plus sans col, mais il faut aussi que ce soit entre guillemets facile à chanter, enfin que ça soit naturel.
Oui, parce que donc, le rôle principal, c'était ça, c'était conseiller artistique sur l'écriture. Sur les arrangements, ouais. Et puis de vous guider de façon un petit peu extérieure. J'ai l'impression que c'est quand même intéressant de travailler avec quelqu'un comme ça qui ne fait pas partie du line-up. Donc
ouais, super. Moi, j'ai envie de... Oui, je pense que c'est un peu de pratique. C'est vrai que nous, on reconnaît que dans nos musiques blues et tout ça, on est plutôt dans des groupes, on n'a pas forcément de, entre guillemets, d'aide extérieure.
Oui.
Alors que dans toutes les musiques, tous les disques qui sont faits généralement avec un minimum de budget, bon, il y a quand même souvent quelqu'un qui est extérieur, qui vient mettre son nez dans le truc, pour apporter du recul déjà, du recul et puis une oreille fraîche. Et puis, c'est vrai que dans Malted Milk, on aime, enfin voilà, je pense qu'on aime bien faire les arrangements, on aime bien faire plein de choses, mais je pense qu'on voulait aussi avoir un regard extérieur et avoir quelqu'un qui puisse un peu nous donner confiance aussi dans ce qu'on voulait faire, mais aussi nous mettre face à nos défauts aussi, quoi. C'était hyper intéressant.
Tout à fait. Arnaud, c'est le genre aussi de rôle que tu joues, que tu peux jouer quand tu es de l'autre côté, parce que tes expériences ne sont pas uniquement guitaristiques et au niveau du chant, mais tu fais également de l'ingénierie du son. Le fait aussi de participer à l'enregistrement, de présider au mixage, au mastering, est-ce que toute cette expérience-là dont tu bénéficies par ailleurs, est-ce que tu en as fait profiter tes propres enregistrements ?
Oui, tout à fait, oui. En fait, disons que mon expérience a permis de faire des résidences qui ont nourri en fait le disque directement, puisque il y a une grosse partie des morceaux dans lesquels les structures de base, on va dire certaines guitares, mais les basses batteries et puis certaines guitares ont été enregistrées sur le moment en répétition, quoi, quand on est en train de créer les chansons. Donc il y a eu des verses, il y a eu pas mal de versions des chansons de l'album qui sont des fois les premières fois qu'on joue le morceau.
D'accord.
C'est cool. Ah ouais. Et ça, donc c'était vraiment parce que justement, j'avais fait un petit peu attention en disant on ne sait jamais, on fait des versions de morceaux. Peut-être que ce serait possible qu'on puisse les exploiter, en fait. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, c'est bien, la première version qu'on a jouée, elle était super, elle était spontanée, on s'est pas posé de questions. Alors, bon, s'il y a des gros pains, forcément, c'est plus compliqué là. Mais c'est vrai que là, on a quand même des musiciens basse-batterie, souvent, c'est assez carré. Donc, du coup, en fait, il y a plein de morceaux, c'est des basse-batteries qu'on avait fait en maquette, quoi.
Mais ça, justement, ça explique pas mal de choses, et notamment une question que j'avais à te poser, Arnaud, à propos de votre travail sur le groove, sur la cohésion. Tout ça, ça paraît évident et naturel, mais il y a forcément un secret à cette unité-là, non ?
Je pense qu'il y a un ensemble de paramètres des musiciens qui sont dans le groupe, déjà, et puis parce qu'en fait, il y a quand même... Enfin, c'est vrai que dans la façon de faire les choses, il n'y a pas vraiment de... Enfin, si, il y a quand même des gens qui vont proposer des arrangements. Globalement, c'est souvent Igor et Damien, d'ailleurs, qui apportent beaucoup en harmonie.
Oui, j'ai l'impression que Damien Cordelis, le clavier, il a un petit peu ce rôle aussi de co-directeur.
Ouais, disons qu'il va... Alors, directeur, sur pas forcément ensemble d'une chanson, mais qui va dire, on pourrait passer sur tel accord. Il est vraiment très présent, comme Igor aussi, mais Igor a plus une vision globale quand même. Mmh. Ça dépend. Et puis après, des fois, c'est moi qui vais donner l'inspiration d'une chanson, parce que je vais faire écouter tel truc, et dire, ce serait cool de faire un truc dans cette idée-là. Donc du coup, Igor dit, on va essayer ce groove-là, on essaye un groove. Après, je peux dire, j'aime pas trop. On la défense en gueule, parce que du coup, je vais m'opposer tout de suite sur un truc, et puis Igor va me dire, on va essayer déjà de bien le jouer,
ouais.
Pour voir si ça colle. Je dis, d'accord. Alors, toi, on est toujours un peu comme ça sur des va-et-vient. Mais après, ça veut pas dire pour autant qu'Eric à la guitare peut pas dire, sur une petite partie, ou alors souvent Eric a des super idées d'arrangement de guitare sur les chansons. Mm-hmm. Des fois, c'est, quand on a fait certains morceaux, c'est Igor qui a enregistré des idées de guitare, parce que tout de suite, il avait des très précises. Il n'y a pas vraiment de, on essaye de pas avoir d'ego, tu veux. En fait, de toute façon, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose sur les morceaux apportent quelque chose.
Voilà, oui, c'est ça. Vous jouez tous et vous participez tous.
Si moi, Igor avec une guitare rythmique qui me va très bien sur le disque, j'ai envie de te dire si elle est bien jouée, que ça correspond à ce qu'il veut lui et ce que moi j'entends aussi. Ça me gêne pas si c'est pas moi qui joue la guitare.
Donc en fait, votre rôle respectif, il est interchangeable. C'est vrai que, alors, c'est quand même toi le leader, le chanteur guitariste.
Oui, mais après, je suis pas moi qui écris suis parti. Ouais.
Mais c'est pas toi qui décides de tout, effectivement. Et là, on s'aperçoit que même en tant que co-directeur artistique, Igor et Damien peuvent aussi écouter les autres. Ça va jusqu'aux cuivres qui ont aussi des choses à dire pour leurs propres arrangements.
Ouais, parce que les cuivres sont très présents. Nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est quand on fait des résidences, c'est pas forcément faire des chansons qui font qu'une fois qu'on l'appelle la chanson, on leur envoie quelque chose et ensuite ils écrivent quelque chose. On essaye qu'ils soient présents avec nous pour tout de suite donner un peu une direction et aussi être avec eux pour leur dire ouais, on voit plus des traits de cuivre de cette manière-là. Ou ce morceau-là, on voit très peu de cuivre, vraiment des trucs très succincts. Et c'est vrai que, ouais, c'est quand même, on essaye de garder cette idée de groupe, que chacun, les cuivres sont pas juste des cuivres qui viennent jouer sur des concerts et les parties qu'on leur envoie, quoi.
Out my window pane, steady waiting on a better day. Monday, Tuesday, every day, share my star with your crying chain. I'm a man of modest pride, girl, I can take the blame. I dream of the other side, can't undo the chain. You can do it if you want, just practice bad for me. My window pane, watching how the children play. Clouds are gray and I hear the rain. Tomorrow the sun will shine again. I wonder when will be the time that I can make my soul shine. Time has come for me to play. The hero hall begging me to stay. You can do it if you want. Just break the spell for me. Say the magic word.
Arnaud Fradin, tu l'as dit, il y a une certaine stabilité dans le line-up. On peut les citer, Vincent Aubert au trombone, Pierre-Marie Humeau à la trompette. Donc on y va, Éric Chambouléron à la guitare, Richard Rousset à la batterie, bien sûr Igor Pichon à la basse et Damien Cordenis au clavier. Et toi-même Arnaud Fradin, guitare-chant, c'est un groupe qui s'est stabilisé autour de ce septet. Est-ce que c'est possible encore d'arriver à avoir des concerts de moitié mic, ou vous êtes simplement 5 sur les cuivres en fonction des endroits où vous jouez ?
Non, frère. Bah, disons qu'au tout début, c'est vrai que c'était compliqué quand on a commencé vraiment à tourner avec les cuivres. On jouait un peu en alternance quintette cuivre. Mais là, c'est vrai que non, depuis pas mal d'années maintenant, c'est devenu l'ADN un peu du projet. Donc, j'ai envie de te dire qu'en fait, on vend pas de date en quintette, quoi. Ça n'existe pas. Enfin, Matel Mix, c'est vraiment un groupe avec des cuivres. Et c'est vrai qu'on assume ça, dans le sens où si on donne le choix au programmateur, de toute façon, on va finir en quintette, c'est sûr.
C'est sûr.
On a fait le choix de peut-être jouer moins, mais de jouer dans les bonnes conditions, avec l'ensemble du projet. Et c'est vrai qu'on a même plutôt fait l'inverse, d'ailleurs, parce qu'on a fait une petite période, on a fait quelques dates en ce qu'on appelait le seul orchestra.
Ouais.
Et là, on était 17.
Oui, avec, c'était à l'époque de Tony Green ou avant?
Bah non, c'était après Tony Green.
Après Tony Green.
On a fait l'album Love Tears and Guns, on a fait à Cahors une version un peu extended de Malten Milk avec 4 violons, 3 choristes. Voilà, quoi. Bon, c'est vrai que c'était marrant, du coup, parce que c'était un peu à l'encontre de ce qu'on nous demande.
Et si on revient à l'album qui nous intéresse, il s'appelle 1975, donc il correspond à ton année de naissance, Arnaud. On parlera tout à l'heure des différents thèmes qui émaillent toutes ces chansons-là, mais pour rester sur la thématique des musiciens, il y a également des choristes. C'est vous les choristes ?
Ouais, tout à fait.
Ouais.
Bah, en fait, alors, sur l'album, il y a nos choristes habituels et favorites, Laurence Lebacon et Julie Dumoulin.
Voilà.
Ça, elles sont présentes, mais par contre, on a fait un vrai choix. Et ça, c'était aussi par expérience de vraiment travailler à fond les chœurs pour les concerts. Parce que on s'est aperçu, disons que c'était le fait d'avoir les choristes, alors même c'était rare, mais d'avoir les choristes de temps en temps, faisait que ça mettait une barre un peu plus haute, assez haute au niveau de la qualité des chœurs.
Ouais.
Ce qui fait qu'une fois qu'on a eu les filles sur quelques dates, après les gars chantaient qu'il n'y avait pas trop de motivation à chanter derrière moi.
Oui, et puis peut-être c'est un aspect qui est un peu trop négligé par les musiciens d'une manière générale. On se concentre sur la composition, bien sûr, sur l'orchestration,
exactement.
Etc. Et ça vient un petit peu en cerise comme ça, quoi.
Ouais, et moi je pense que c'est pas une cerise sur le gâteau parce que ça fait une vraie différence quand t'as un vrai groupe avec des vrais chœurs derrière.
C'est
et ça apporte vraiment plein de choses. Et du coup, moi, ce que j'aime bien là-dedans aussi, c'est que ça fait sortir l'instrumentiste sur scène de son instrument. Et ça me connecte avec eux aussi. Donc, c'est une manière aussi, d'être connecté sur les chansons au-delà de l'instrument.
Oui.
Parce que c'est vrai que l'instrumentiste va avoir tendance à être un peu dans ses arrangements d'instrumentiste. Et c'est vrai que là, la voix, t'es obligé de te sortir un peu, d'être en accord avec les autres. Et puis aussi, ça rejoint le lead chant pour moi. Donc, on a travaillé ça parce que, ça paraissait compliqué sur certains points.
C'est vrai que ça peut faire sortir de sa propre zone de confort, d'avoir à se livrer comme ça au niveau du show.
Et je pense que, c'est tout à fait. Donc, c'est vrai que ça met aussi les autres, ça permet de comprendre aussi des fois les difficultés en tant que leader que je peux avoir aussi, parce que des fois, moi, jouer mes parties de guitare, être bien à l'aise, être bien au chant aussi, et faire tout comme il faut, pas toujours évident, il faut adapter les chansons. Les chansons, on les a pas vraiment jouées toutes, quand on les a enregistrées, on a d'abord eu des idées rythmiques et tout ça pour certaines que je vous expliquais tout à l'heure, qu'on a gardées. Mais c'est vrai que la construction finale, elle s'est faite le chant, je l'ai fait après. Donc, une fois qu'on a tout fini les morceaux de l'album, il a fallu refaire une autre grosse période de travail pour les mettre en place. Alors, ce qui est hyper intéressant aussi, d'ailleurs, parce que l'idée, c'est de pas faire la même chose exactement sur scène que ce qu'on entend sur le disque, en fait. C'est surprendre les gens aussi.
Justement, Arnaud, est-ce que ce sont les morceaux, les 8 morceaux qui composent cet album, 1975, The Motive Milk, est-ce que ce sont des titres que vous avez travaillé particulièrement sur scène ou pas du tout?
Tous. En fait, pour une fois, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que souvent, on a un album, donc par contre, on a fait un choix aussi ramassé, on n'a pas fait un choix de, on a mis 8 titres, donc c'est quasiment,
c'est le seul défaut du disque, hein. Moi, je vais te dire, très, très honnêtement, en tant que humble auditeur, quand tu as l'album 8 titres, je serais tenté de dire seulement, parce que à l'écoute intégrale, on en voudrait vraiment davantage, c'est à parti pris, ça. Ouais. C'est pour cadrer avec le format vinyle, peut-être aussi, non?
Ouais, exactement, pour t'expliquer, les choses, en fait, c'est qu'on avait beaucoup de morceaux, on avait énormément de morceaux, et on a eu tellement de morceaux que du coup, on s'est dit, plutôt que d'en mettre beaucoup, des choix étaient difficiles, on s'est dit, on veut tout ce qui soit mis en valeur, donc en fait, on s'est dit, ce serait mieux de faire en deux. Alors, quelque part, on n'a pas annoncé deux volumes, mais c'est un peu un premier volume de deux albums, en fait, quelque part.
D'accord.
Et c'est-à-dire que, alors, pour l'instant, c'est pas explicite, on n'a pas expliqué ça, parce qu'on estime que l'album doit vivre en tant que disque seul, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup d'autres matières, donc on a fait le sacrifice, entre guillemets, de pas mettre certaines chansons qui étaient super sur ce disque-là pour en garder pour le prochain. Parce qu'en fait, on avait beaucoup. On avait énormément de matière.
Qu'on soit bien d'accord, je ne sais pas combien il y avait de morceaux, peut-être à les 18-20, mais ce n'est pas un best-of des 18-20. Vous êtes dit, on va garder quand même, on va regarder sous le pied.
Exactement. Quoi, donc, on en a sous le coude.
Ouais. Impeccable. Alors, ça, mais donc, on n'est pas du tout inquiet de toute façon.
Pour répondre à ta frustration.
Voilà, d'accord.
Répondre à ta frustration, bah, en fait, la frustration peut-être sera moindre, sachant que là, on a de la matière, donc ça veut dire qu'aussi, l'album suivant sera beaucoup plus proche que d'habitude. Il ne sortira pas dans 4 ans.
Donc dès 2025, on pourra avoir un album qui s'appelle 1982, tiens, pour Igor, par exemple.
C'est ça.
Les influences de Motile Milk, elles ont été multiples, bien sûr, dans la construction de votre son. On évoquait tout à l'heure les pionniers du blues. Lesquels sont privilégiés actuellement? Les influences qui viennent de la soul, du funk, avec peut-être un petit penchant pour High Records des années 70, non?
Ouais. Bon, en fait, franchement, il n'y a pas trop de... Enfin, si, il y a des références, parce que chaque morceau a un petit peu son petit univers musical, les influences variées. Mais globalement, c'est un mélange entre ce qu'on écoute de soul, on va dire actuel, où justement, on mélange à la fois des éléments modernes dans le mixage, mais aussi avec des éléments, entre guillemets, vintage, c'est-à-dire avec des sons qui rappellent un petit peu les sons des années 70, voire 60. Mmh. Et du coup, nous, l'idée, c'est de piocher dans tout ça et de faire un peu d'autres trucs. Donc du coup, on n'a pas de références actuelles et puis en même temps plein de références anciennes. Et puis dès quelque part, ça nous donne des envies. Et puis c'est vrai qu'après, on a fait appel aussi. On a décidé que ce serait un mixeur externe parce que moi, j'aurais pu mixer l'album, mais je voulais avoir quelqu'un qui a du recul et qui propose quelque chose. Mmh. Donc on a fait ce choix-là. Et du coup, voilà. Donc c'est vrai que ça part dans cette démarche aussi de mixer aussi avec quelqu'un qui est plutôt jeune. Plutôt la jeune génération, donc qui a cette culture un peu électro, qui a cette culture un peu de chanson et culture aussi de savoir mettre en avant les bons éléments dans un titre pour en faire un titre qui va propulser la production à un point où le morceau a de l'ampleur en fait.
Ouais.
L'ampleur à l'écoute.
Arnaud, effectivement, et puis là-dessus, il y a encore l'air une question par rapport à toi et la guitare. Je sens que ce soit ton jeu de guitare, tes interventions elles-mêmes, beaucoup plus en retrait par rapport à avant. C'est un parti pris aussi en fonction du répertoire. C'est pas des morceaux à guitare, on est d'accord?
Parce que c'est vrai qu'il y en a pas, il y a pas énormément de solos et tout ça, mais en tout cas sur les concerts, il y en a pas mal. Il y a toujours, on essaie de garder un équilibre là-dessus, tout en étant ce que j'aime bien aussi, c'est pas de plus en plus. C'est aussi des fois des guitares solo, mais qui sont un peu intégrées dans la chanson et qui font partie des textures un peu d'une chanson.
C'est ce que je voulais dire.
Je pense que tu vois ce que j'aurais défendre avec dans ce sens-là, même si quand même on est plus dans les solos. Enfin, mais quand même, malgré tout, dans les solos purs. Et tu vois, c'est marrant parce que on est très copains avec toute l'équipe là qui sont une partie nantaise là des Lowland Brothers.
Oui.
Mais en fait, c'est vrai qu'ils ont ce quoi. Alors c'est différent parce qu'ils ont un côté un peu plus rock et c'est un peu les mêmes influences, mais très Black Keys aussi. Et c'est vrai que toi, j'étais allé voir un concert l'autre jour et j'adore parce que c'est vrai que Nico, même à travers son jeu de guitare blues, il est pas forcément à faire des solos de blues, quoi. Tu vois, il y a vraiment
une façon
des textures sur les chansons.
C'est ce qu'on entend aussi chez Alexis Evans parfois. Hein.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'est bien parce que tu vois, on est plus dans le. On est moins. Alors, et moi, j'aime bien aussi avoir ma partie de solo où je vais exprimer à fond plein de choses avec la guitare parce que j'adore ça aussi. Mais c'est vrai que par du principe que ça soit au service des chansons et qu'on soit plus dans un cadre que ça apporte quelque chose, mais en fait, que les chansons n'existent pas juste pour faire des solos de guitare. Quoi.
J'ai l'impression. Effectivement, que cette volonté justement de faire un album avec exactement le même line-up que ce que vous allez proposer sur scène par la suite, ça rejoint aussi le fait qu'il n'y ait pas de guest. Il n'y a pas d'invité sur ce disque, mais si jamais il y avait dû y avoir des invités, Arnaud, allez, on va transposer un peu si on fait de la science-fiction avec des artistes français, européens ou américains, qui est-ce que tu aurais aimé ou pu ou dû inviter s'il y avait dû avoir des guests?
Après, il y a quand même un morceau en duo avec Marco Cinelli.
Alors, il y a Marco Cinelli, effectivement, on n'en a pas assez parlé de Marco.
Et puis, il y a une chanteuse qu'on adore de Nantes, là. Alors, c'est pas une décoriste. Ça s'appelle Lorraine Magnani et c'est une chanteuse qui est bordelaise à la base mais qui vit à Nantes.
D'accord.
Et qu'on a décidé d'inviter. Alors, au début, ça devait être un morceau justement pareil en partageant le chant en duo vocal. Et puis c'est vrai que c'est moi qui ai fait des prises de voix quand elle est venue chanter sur la chanson. J'ai un peu drivé, on a fait des choix, un peu des prises ensemble et tout ça. Et c'est vrai quand j'ai entendu toute l'expressivité de sa voix et tout ce qu'elle faisait sur la chanson, en fait j'avais vraiment juste envie de lui laisser elle le morceau quoi parce que c'était une façon de. Enfin, en tout cas, le parti de féminité vocale qu'il y a sur l'album, je voulais qu'elle soit pleine. Quoi. Ça part forcément imposé dans un. Et je pense que Motile Milk, c'est ça aussi. C'est aussi un groupe de musiciens qui peut faire un titre avec une chanteuse, un chanteur. En fait, on n'a pas de limite là-dessus. Et moi, je suis pas absolument. C'est-à-dire, si je chante pas sur une chanson, ça me pose pas de soucis. Quoi. Je trouve que j'aime bien me mettre au service.
Tu l'as prouvé lors de ta collaboration avec Tony Green, qui a duré quand même un bon moment. Mm-hmm. Voilà, que ce soit sur disque ou sur scène. We'll be right back.
was supernatural. Closer than it seems.
Juste une petite question, Arnaud, par rapport à l'enregistrement analogique ou numérique ?
Alors, numérique, hein. Ouais. Numérique. Ouais. Donc, bon, alors, disons qu'on on a passé quelques trucs sur bande, je crois, parce que dans le studio où on a été à la fin, je pense qu'il y a des morceaux qu'on a fait passer sur les bandes un petit peu, mais bon, franchement, aujourd'hui, c'est quand même plus simple. C'est assez compliqué, l'analogique. Quand je dis l'analogique, c'est sur toutes les textures, justement, de son, quand on était en studio à la fin, un vrai studio.
Ouais.
Entre guillemets, hein, où on a fait pas mal de choses à Nantes, au garage hermétique. Et là, c'est un studio où il y a beaucoup de matériel vintage, plein de claviers, plein de choses. Et là, on a fait beaucoup de texturisation, quoi, en fait. Donc, on s'est servi du studio.
D'accord. Donc,
on est vraiment dans l'analogique. Donc, tous les claviers qu'on entend sur le disque, c'est vraiment analogique. C'est pas des claviers MIDI joués avec des sons. Et ça, c'était important pour nous parce que c'était ça. On voulait utiliser studio pour les textures, en fait, pour les textures qu'on peut avoir avec plein de matériel qui permet justement d'avoir ces textures analogiques.
Ouais. Arnaud, si on parle des thématiques de tes chansons, tu t'exprimes sur l'état du monde, sur l'amour, sur ton parcours de vie propre également. Tu exprimes ta peine, ta colère, tes espoirs aussi. Est-ce que c'est quelque chose de personnel? Est-ce que c'est quelque chose, on va dire, d'intrinsèque? Ou est-ce que ça pourrait être vraiment universel, ces messages-là?
Moi, je pense que c'est au départ, je pense que c'est un peu comme toute chanson qui est écrite comme ça. Ça part d'un truc, quelque chose d'assez personnel, parce que c'est vrai que c'était aussi une volonté de coller avec une certaine réalité. Donc, en fait, quand j'ai vu Marco, c'est vrai qu'on a, à travers le travail qu'on a fait sur la longueur, on a appris à se connaître aussi, parce qu'on se connaissait pas si bien que ça. Et du coup, ça nous a permis aussi de se connecter. Donc, lui, de venir à Nantes. Donc, venant à Nantes, il venait venu aussi pas mal dormir à la maison. Donc, il a un peu, j'ai pu forcément partager des choses qui se passaient dans ma vie, parce que je me séparais à ce moment-là, j'ai des enfants, enfin. C'est plein de choses qui se mettaient en place pour moi, des choix que je devais faire aussi. Et du coup, le fait qu'il soit là, puis c'est vrai que la musique permet, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est toujours quelque chose de cathartique aussi,
quand
j'ai commencé à faire de la musique. Donc du coup, c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est important de connecter profondément, parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on chante en anglais, à pas perdre le sens. Je sais ce que je chante, mais je veux dire par là, c'est que c'est vrai que c'est pas notre langue natale. Donc c'est important de mettre du sens aussi et de se dire, ouais, attends, de quoi je parle en fait, de quoi on parle, de quoi je veux parler.
Mais de toute façon,
encore aujourd'hui.
Ouais. De toute façon, quand tu écris en anglais, tu traduis du français.
Non. Ouais, tout à fait. Non, alors, du coup, moi, en tout cas, tous les textes qui ont été écrits là sur l'album, hein, c'est vraiment Marco qui a vraiment œuvré sur l'écriture. On a partagé sur les thématiques.
Voilà, d'accord.
Sur les thématiques ensemble, par exemple, tu vois, il y avait un morceau, il dit tiens, on pourrait parler de ça. Tu vois, il y avait toujours quelque chose qui était lié avec quelque chose de réel dans ma vie, en fait, un point de départ ou des fois une constatation aussi. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été aussi un petit peu développées sur la période. Du Covid.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est aussi une période où les gens devenaient super connectés à Internet et cette dépendance un petit peu aux réseaux sociaux et tout ça. Enfin bref, donc tout un truc qui a fait aussi, qui crée aussi une certaine un côté pratique, mais aussi quelque chose qui était pas forcément positif à la finale. Enfin tu vois.
Bien sûr.
Donc du coup ça a influencé certains textes et puis après il influence aussi de mon quotidien et de ce que je vivais à ce moment-là. Et c'est vrai que Marco là-dessus, il a été hyper connecté avec moi. Enfin c'est-à-dire que
ouais, je comprends.
Tout ce qui a été écrit. Bah, par contre c'est lui vraiment qui a écrit les textes. Après on a modifié les textes aussi. On en a discuté parce qu'il y a des choses que j'ai pu des fois pas précisé. Mais après, une fois que, comme je te disais tout à l'heure, quand on a eu à peu près la forme des voix des morceaux et puis les détails des textes, on les a fait corriger par Mike McDorman, et lui, il aurait pu nous dire non, on dirait littéralement, on dirait pas ça en anglais, on dirait plus comme ça, donc c'est ça qui nous a aidé. Des fois, sur des trames, essaie de dire ça comme ça, ça sera plus fluide pour toi, niveau vocal, et puis en même temps, le sens est meilleur. Essayer vraiment de peaufiner certains morceaux pour aller jusqu'au bout de la démarche, quoi, hein, de pas laisser de côté des petits détails qui pourraient nous échapper.
Ouais, je comprends. J'ai dans le studio avec moi deux stagiaires, deux amis qui s'appellent Martin et Noah, et qui ont été sensibles. Tout à l'heure, je leur ai montré le clip Love for Yourself. On va rappeler quand même que c'est une réalisation de Julien Dubois, dans lequel on reconnaît Florian Riault, d'ailleurs, en tant qu'acteur principal.
C'est
Et je vais leur passer le micro parce que je crois qu'ils ont des choses à te dire, que ce soit Martin ou Noah. Je sais pas qui va commencer, Noah peut-être.
Alors merci pour m'avoir pris la parole.
Ouais, pas
et alors moi je vais plutôt au terme du clip, au terme de la signification. Alors je pense que pour nos auditeurs qui nous écoutent et auditrices d'ailleurs. Je vais t'écrire les passages que je dis pour avoir plus de symbolique. Au bout d'un certain moment, t'as l'enfant, on a l'enfant dans sa chambre qui emballe dans sa carton un Playmobil pirate et qui part au niveau du sang. Et juste après, on a l'adulte qui est dans son bureau qui sort, qui part au niveau du sang. Et à partir de ce moment-là, elle a une confrontation où l'enfant donne le Playmobil, donne le cadeau plus précisément à l'adulte, et l'adulte le donne sa montre.
C'est ça.
Et après, l'adulte est dans un parc, il ouvre le cadeau, il voit le Playmobil, et il commence à enlever sa chemise, et il fait plein de gestes que je ne saurais pas trop décrire.
Tu disais tout à l'heure, il pète un câble en fait.
Oui, voilà.
C'est ça.
Vas-y Arnaud.
Oui. Pour résumer le truc, en fait, c'est que l'enfance lui-même, en fait, c'est son enfance à lui.
Oui.
Et ça veut dire qu'en fait, c'est le sens, si tu veux, c'est de dire, c'est le sens de la chanson, parce que c'est une chanson de base, c'était vraiment une chanson pour critiquer un peu les gens qui nous dirigent, et puis le fait que nous on se retrouve dans une position souvent un petit peu comme des petits moutons qui doivent suivre un peu ce qu'on nous dit de faire, et que du coup il y a des gens qui à travers ça finalement dans la façon de, tu vois, on voit le gars, il travaille, il bosse, il est à fond dans sa carrière on suppose que c'est quelqu'un qui est dans la finance, tu vois, c'est ce côté-là, qui est vraiment tu vois, qui travaille énormément, qui a beaucoup d'argent et tout ça, et qui finalement passe à côté de sa vie, en fait, entre guillemets, quoi, tu vois. Du coup, ce gars-là, se rappelle de son enfance qui revient, et là, du coup, à un moment donné, il se rend compte qu'il est passé à côté, en fait, qu'il est passé à côté d'une partie de sa vie, parce qu'il a consacré sa vie à des choses, entre guillemets, financières, et voilà, c'est une façon de dire les choses pour dire, à la fois, on est nous frustrés d'être là, parce qu'on s'entend manipuler par des gens qui sont comme ça, justement, qui sont que dans leur carrière, notamment dans la finance, ça pourrait être la politique aussi, hein, mais. Donc, c'était une certaine critique, c'était une façon de dire, n'oublions pas qui on est, d'où on vient, et n'oublions pas l'essentiel dans nos vies, en fait.
Voilà, l'essentiel, c'est ça, Arnaud. Noah, je parle également un peu pour toi, mais j'ai envie de te dire à toi aussi, Noah, toi qui es jeune, est-ce que c'est un message qui te touche particulièrement? On va rappeler ton âge, Noah. Quel âge as-tu?
J'ai 15 ans. Actuellement, je suis au lycée. Et ouais, oui, ça me touche un petit peu pour mon parcours d'avenir, parce que cette chanson, est-ce que tu viens de dire, c'est qu'il ne faut pas trop aller non plus trop se projeter dans faut pas trop se projeter dans le travail. Faut aussi faut avoir une vie sociale derrière pour vivre. Pour vivre, en fait, tout simplement.
Exactement. Ouais, c'est ça. C'est comme quand t'as des enfants. Moi, j'ai des enfants aujourd'hui. C'est aussi, on est tous. En fait, ce que je veux dire par là, c'était aussi peut-être une critique d'aujourd'hui, parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde court après plein de choses. Enfin, tout le monde court après le temps, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein d'aides de technologies qui sont présentes et qui devraient nous permettre de nous faire gagner du temps, et puis on a l'impression qu'on est toujours en train de courir après un lièvre, en fait, et c'est vrai que il y a ce côté-là, c'est-à-dire reprendre le temps, moi je serais qu'avec les enfants, je dis ça parce que moi-même des fois je me retrouve comme ça, pareil, enchaîné par mon emploi du temps, et puis du coup tes enfants, t'as pas le temps de t'en occuper, puis quand tu t'en occupes, tu t'énerves parce que t'es fatigué, quoi. Donc c'est vrai que le message, c'est ça, c'est aussi
le message, tu te l'appliques à toi-même aussi. On a également Martin qui est dans le studio, qui partage pas mal de choses avec toi. Vous êtes dans la même classe?
On n'est pas dans la même classe, mais on est dans le même niveau.
Et Martin, tu as 15 ans toi aussi?
Également, c'est ça.
Et est-ce que tu peux nous donner ta réaction justement au visionnage de ce Love for Yourself de Molten Milk?
Alors moi, j'ai plus une analyse technique dessus, c'est-à-dire sur l'étalonnage, justement entre le passage où il y a l'enfant et le passage où on voit l'adulte.
Oui.
Ouais, tout à fait.
Sur l'étalonnage, quand c'est un enfant, on est plus sur des couleurs chaudes.
Tout à fait.
Etc. Et c'est sur l'adulte, on est plus sur des couleurs froides.
Alors au niveau visuel, mais également au niveau musique, enfin, y a deux climats différents dans ce titre et chacun d'eux est parfaitement respecté dans le timing, tu l'as dit, hein, au niveau de l'étalonnage. Là encore, c'est une volonté de Julien Dubois. Quel talent, Julien Dubois, quand même, hein, Arnaud?
Bah oui, super. Bah, Julien, il a été fort parce qu'il a brodé, il n'a pas forcément donné un synopsis de base au départ et c'est lui qui a eu cette idée. Justement, d'image et un peu de l'enfance et de l'adulte. Et puis, c'est vrai que c'était pas forcément explicite dans la chanson de base. Donc, du coup, c'est hyper intéressant. Donc, quand il a proposé ça, j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait exprimer. Et c'est vrai que ça correspondait exactement au message profond de la chanson. Et même que je pense que le clip fait aller au-delà des paroles, le sens de la chanson. Et c'est ça qui est plutôt chouette.
J'ai une question pour Martin et Noah qui sont en face de moi. Vous connaissiez Malty Milk avant aujourd'hui?
Du tout.
Non, pas du tout.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu et vu?
Franchement, c'est une atmosphère qui me plaît beaucoup, notamment avec les voix,
les voix
qui vraiment habillent les chansons.
Tu parles des chœurs à ce moment-là,
des chœurs et la voix. Des chœurs qui vraiment habitent le morceau, le font vivre et lui donnent une densité très intéressante.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'il y a cette idée de densité dans la chanson, de cri en fait, un peu, c'est un cri à la fois qui peut être... du désespoir, mais je pense que là c'est plutôt le point levé quoi en fait, c'est plutôt justement d'être resté debout et de se battre en fait. Il y a ce côté là dans le, je pense aussi d'ailleurs beaucoup dans la soul music quoi, le côté
on ne se contente pas du désespoir ou de la défaite, mais effectivement on lève le point, hein, comme on a pu le faire aux Jeux Olympiques en 68 par exemple.
C'est
le message.
Non, mais c'est vrai.
Noah, tes impressions, puisque tu connaissais pas Malty Milk toi non plus?
Même si c'est pas trop ma cam musicale, faut crash musical, j'aime pas trop les musiques en anglais, mais c'est vraiment bien apprécié ce titre, et comme c'était plus avant de faire l'interview, je pourrais l'écouter de temps en temps.
Très bien.
Super.
Merci Noah et Martin, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue de jeunes, de vrais jeunes qui sont nés après 2000, hein, largement. Arnaud, tu plais aussi aux jeunes, voilà une nouvelle confirmation.
Ouais, non, mais ça fait, moi je trouve ça super important, justement, et ça fait partie aussi peut-être de la démarche globale du groupe, c'est aussi de pas être dans un truc passéiste entre guillemets, voilà. et de rester dans l'actualité d'aujourd'hui, comme tous les groupes. Enfin, après, il y a des groupes qui vont pas forcément parler de ce qui se passe. On n'a pas une volonté politique plus profonde que ça, mais je veux dire, par contre, on a une responsabilité, c'est vrai, je pense, à travers notre art aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, de pouvoir donner notre avis ou crier un peu dans quelque chose, quoi, à travers la musique, quoi. Et c'est vrai que c'est bien de lier, je pense, de lier les deux, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Effectivement.
Pour moi, les jeunes,
ben oui.
Enfin, pour moi, c'est essentiel parce que c'est justement ce qu'on a envie de faire, nous, avec ce groupe-là, c'est pas de rendre le groupe dans une, que ce soit dans un créneau musical qui fasse que ça touche pas les jeunes.
En dans fait. Un circuit fermé, quelque part, finalement.
Ouais.
Oh,
yourself. Arnaud Fradin, alors tu parles d'ouverture vers, on parle d'ouverture vers les jeunes également, c'est le cas au niveau des supports, enfin on peut vous retrouver sur tous les réseaux sociaux, vous utilisez les plateformes, c'est un outil devenu indispensable pour faire connaître sa musique en 2024, Arnaud?
Disons que il a fallu s'adapter forcément, au début c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce qu'on est très sollicité, et puis c'est vrai qu'il y a des moments, Facebook, on peut vite passer une demi-journée par la moitié de nos journées, mais c'est vrai que on a conscience que, bon, c'est pas évident, c'est toute la culture, enfin, je veux pas rentrer dans ce débat-là sur le streaming et tout ça, mais finalement, nous, en tant que label, aujourd'hui, on s'aperçoit, alors, qu'effectivement, il y a moins de ventes physiques, même sur les concerts, enfin, qu'on voit qu'on vend moins de disques en général, parce que, tout simplement, les gens, des fois, ils vont même plus de platine CD, quoi, donc ils vont pas forcément acheter un CD pour acheter un CD.
C'est vrai.
Mais du coup, il y a le streaming. Alors, nous, le streaming, c'est super bien développé. On a tout un travail là-dessus qui a été fait et qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 250 000 personnes qui nous écoutent tous les mois.
Ah, c'est énorme.
Et c'est énorme. Et du coup, tu vois, on a des morceaux, on a des millions d'écoutes. Donc, tu vois, on a passé un cap qui fait que, du coup, c'est cool. Ça apporte un vrai plus, je pense, pour le groupe. Et puis non seulement il y a ça, et puis en fait on s'aperçoit, alors après moi j'ai pas les comptes précis de tout ce qu'on peut gagner grâce à ça, et je dis pas que le streaming et je pense que les rémunérations ne sont pas assez, enfin en tout cas qu'il y a un petit souci quand même globalement, mais nous en tant que label, sachant qu'on n'a pas trop d'intermédiaires, on gagne à peu près la même chose que ce qu'on vendait en physique à la belle époque, en fait, on va dire.
D'accord. Donc ça reste, il faut relativiser. Moi qui souvent interrogé des artistes là-dessus, et puis certains étaient pour, d'autres étaient contre, disaient de toute façon on peut pas faire autrement, on a peut-être l'avis de Noah aussi là-dessus. Noah, vas-y si tu veux.
C'était plus une question, mais...
Sur le streaming, c'est ça?
Oui.
Ouais.
Par exemple, je vais reprendre vos propos, disant que parfois vous avez eu des millions d'écoutes. Est-ce que vous avez déjà gagné un prix par rapport à vos musiques sur des... C'est de streaming quand Spotify, par exemple?
On a ce qu'on appelle des playlists. Alors après, les playlists Spotify, c'est vrai que ça dépend de... Des fois, des choix que eux-mêmes font. C'est-à-dire qu'ils font, ils ont un peu un avis sur... c'est pas évident, en fait, parce que, effectivement, pour arriver à avoir des écoutes, il faut être sur des playlists qui sont beaucoup écoutées, pour que les gens découvrent le groupe. Mais c'est vrai qu'après, c'est un peu un effet boule de neige, parce que plus on est diffusé, plus les gens écoutent le groupe, plus ils écoutent. Et c'est vrai que moi, j'ai été surpris des fois de me retrouver dans des lieux où les gens mettaient une playlist Spotify, par exemple, de Soul, et j'écoute plein de trucs super que j'adore, et puis tout d'un coup j'entends sur une heure ou deux heures j'entends deux titres de Malted Milk sur une playlist que je trouve vraiment bien, je me dis c'est cool, ça me met super bien en valeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose international, c'est à dire que cette playlist là il y a un mec qui va l'écouter en Australie ou je sais pas où, quoi. Et c'est vrai que du coup ça rend la musique quelque part en fait sur le chemin des concerts, et des fois l'accueil que je fais des fois sur, même en tant que technicien, j'accueille certains groupes des fois sur des lieux où je vois des groupes étrangers qui tournent un peu partout et qui ont un réseau entre guillemets dans une espèce de niche musicale qui fait que grâce à réseaux sociaux et grâce au streaming et au développement qu'ils font, on a un accès sur des tournées un petit peu à l'international.
Donc tu vois, par rapport à ta question, Noah, le prix à gagner, finalement, c'est ça, c'est la reconnaissance un peu universelle autour du globe, c'est ça l'intérêt du streaming, selon Arnaud. Hein.
Parce que tu peux avoir des gens en Australie qui connaissent ce groupe. Disons qu'avant, c'était un peu le groupe de soul français, il était surtout en France. Et puis, quelque part, pas forcément écouté à l'étranger aujourd'hui. C'est vrai que moi, ce que je remarque, grâce au streaming, grâce à ce fonctionnement, c'est que les gens, musicalement, sont beaucoup plus curieux. C'est-à-dire qu'ils vont moins être dans leur univers musical de prédilection, de base. Moi, j'écoute du classique et du jazz. Du rock. Et c'est vrai qu'avant, les profils des gens étaient plus dans où chacun avait son style de prédilection. Et aujourd'hui, ce que je vois moi autour de moi, c'est que les gens ils écoutent de tout, en fait, et ça je trouve ça super. Moi je vois ma fille, elle écoute du balavoine et elle écoute du funk japonais, quoi.
Elle a quel âge ta fille, Arnaud?
Elle a 12 ans.
12 ans. Martin, Noah, c'est votre cas? Comment vous consommez la musique, vous?
Personnellement, j'ai écouté sur YouTube avant et je suis passé sur Spotify.
Ouais.
Et c'est une grande playlist où je retrouve un peu tous les musiques préférées, où j'aime bien ce différent style, mais j'avoue que c'est plus instantané. Pour le coup.
Ça rejoint ce que disait Arnaud. Et toi, Martin, comment tu fais pour écouter la musique?
Moi, la musique, je consomme beaucoup via Deezer, Spotify, et sinon pas mal vinyle et CD aussi.
D'accord.
Et j'écoute de tout.
Et donc, tu as une platine vinyle, une platine CD et un téléphone dans la poche, tu as tout ce qu'il faut pour écouter de la musique. Voilà, c'est comme ça qu'on fait.
Je pense que toi, il a bien résumé ce que je pense. C'est-à-dire que tu vois, il a différentes façons d'écouter la musique. Mm-hmm. Et moi, je trouve ça super. C'est pareil, moi, j'écoute du vinyle, puis parfois, j'écoute Spotify en streaming parce que je découvre aussi des artistes sur des playlists. En fait, c'est vrai que c'est génial, quoi. Tu vas écouter des fois des trucs que tu n'attends pas forcément ou des artistes que tu connais pas. Et c'est vrai que ça rend les gens, je trouve, beaucoup plus curieux. C'est l'intérêt, maintenant. Maintenant, effectivement, si on arrivait à faire en sorte que la rémunération des artistes soit vraiment pleine et qu'il est vraiment...
C'est un autre débat. C'est un débat qu'on avait eu avec Fred Chapelier, qu'on avait eu avec Curtis Salgado, qui lui est radicalement contre. Enfin, Fred, qui lui également sur les réseaux, qui dit de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut y aller, puisque tout le monde est là-bas. Voilà, c'est un débat sans fin. Et puis, de toute façon,
il y a deux façons de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a le fait inverse complètement, et ça, je trouve ça pas con aussi. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui vont dire, nous, on n'est pas sur les plateformes et tout ça. Si vous voulez nous écouter, achetez notre disque et vous le commandez directement sur notre site internet à l'ancienne. Oui. Je pense que ces gens-là, il faut quand même arriver à toucher du monde et que les gens fassent la démarche. Mais si ça fonctionne, je pense qu'à la finale, tu peux peut-être gagner plus que ce que tu gagnes sur les trucs de streaming. Donc, c'est pas évident, en fait. C'est quoi la démarche? Est-ce qu'il faut plutôt être complètement indépendant? Après, moi, je pense que l'ouverture au monde, elle est importante et puis et possiblement faire partie justement de. Moi, je trouve ça kiffant. Il y a un gars qui, je sais pas où, en Afrique ou n'importe où dans le monde, ou en Russie, ou je sais pas, ou en Ukraine, et que le gars, il puisse écouter le groupe et découvrir ce groupe, quoi, tu vois.
Alors, pour découvrir Multilmic, on peut aussi aller dans les concerts. Vous êtes sur scène assez régulièrement, même si tu l'as dit en début d'interview, vous ne faites pas énormément de dates parce que vous êtes 7. Et c'est vrai que pour se produire dans un petit bar, maintenant on oublie. Mais
on a plus en plus de dates et on a vraiment un vrai travail qu'on fait avec nos tourneurs.
Oui.
C'est un vrai boulot. Et c'est vrai que c'est un boulot de longue haleine parce que c'est un boulot qu'on fait depuis maintenant plusieurs mois et plusieurs années même, avec eux. Et c'est vrai que c'est un pari aussi, quoi. C'est se relancer sur la route avec un groupe où on est nombreux, où les coûts de déplacement coûtent plus cher qu'avant. Les budgets culturels s'amaigrissent d'une année à l'autre. Donc c'est vrai que dans tout cet environnement, pas évident, quoi. Mais par contre, on se bat pour aller contre ça et arriver à trouver des dates, à aller jouer le plus possible un peu partout. Mais effectivement, effectivement, on est quand même affaire à une situation qui n'est pas forcément évidente sur un projet avec 9 gars sur la route, quoi.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas que les musiciens sur scène. Et puis, effectivement, s'il y a le full rack, comme dit Freddy Miller aussi de temps en temps, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, on va retenir deux dates principales qui sont les release parties de cet album 1975 de Multilmic, le 28 mars au Stéréolux à Nantes et le 31 mai à la Maroquinerie à Paris. Il y a d'autres dates, bien sûr, notamment on va pouvoir vous retrouver sur la scène de Jarnac en ouverture du Cognac Blues Passion, ça sera pour le 2 juillet. Et puis, il y a quand même pas mal d'autres choses à signaler jusqu'à la fin de cette année. Voilà, les concerts à venir, la liste est en cours de remplissage, si j'ai bien compris, Arnaud.
Tout à fait, il y a quand même beaucoup de propositions de dates là qui arrivent même en ce moment. Et puis, avec tout le temps passé, on a aussi tous, heureusement, d'autres projets à côté qui nous permettent d'avoir assez de dates sur l'année. Donc, on n'a pas de couteau sous la gorge. C'est plutôt bien parce qu'on peut travailler d'une manière sereine aussi, sans être déçu s'il n'y a pas de date. Quoi. Et du coup, mais par contre, on tient prêt parce que c'est le projet principal de tous, quoi, en fait, quasiment. Et c'est vrai que, on a envie que Multilmic reparte sur la route et qu'on puisse faire des belles dates, partager le plus possible avec le public et puis, nous aussi, avancer, quoi. Enfin, c'est aussi en faisant un maximum de concerts qu'on fait des bons concerts. Faut pratiquer, quoi. C'est vrai que c'est frustrant quand on joue tout, en fait.
Bien sûr. Pour terminer, pour conclure, Arnaud, je voudrais citer une petite phrase qui figure sur ton dossier de presse, qui est fort bien cousue d'ailleurs. Cette phrase-là, ça résume vraiment tout. 1975, donc ton album s'appelle 1975, est à la fois le reflet intime de la personnalité du leader et le témoignage de la cohésion d'un groupe qui traverse les années en se renouvelant avec brio. On peut pas dire mieux.
C'est vrai,
hein.
Ouais, c'est vrai.
Très bien.
Vrai,
écoute, Arnaud, il me reste à te remercier pour la participation à cette interview. Je remercie également Noah et Martin. Merci les garçons.
Merci les gars.
Avec plaisir. Beaucoup remercie d'ailleurs.
Et puis, peut-être que vous aurez l'occasion d'aller voir Multilmic. Enfin, en tout cas, il y a des dates. C'est ce que je vous souhaite, c'est de rencontrer ce groupe-là en live et puis d'aller saluer Arnaud à la fin du concert.
Franchement, ça a titillé ma curiosité. Donc, carrément venir vous voir en concert.
Noah,
je vais voir si c'est possible.
D'accord, très bien. Parfait. Merci Arnaud. Et puis, à tout bientôt sur la route du blues, forcément.
Merci à vous. Merci beaucoup. Hein. Salut,
merci,
salut,
à très bientôt. Salut.
Everything's possible. Sometimes it's impossible. Even worse, that's what my mama told. Rather than just use that word, I spell I am possible. Listen to the call, spread out your soul. I am possible. I am possible. Listen.
just listen to my soul. Everything's possible. Maybe this is not for all. Feels like it's illogical. Rhythm that just you, that word I spell, I am possible. Listen to the call, straight on your soul. I am possible, I am possible. Listen to the call, straight on your soul. I am possible, possible.
Merci à Arnaud Frada, c'était cette interview à propos de l'album 1975 Molten Milk et puis bien d'autres choses aussi. On a écouté A Little Bit of Soul, Set Me Free, 1975, Love for Yourself et I'm Possible, extrait de l'album de Molten Milk. On se retrouve la semaine prochaine avec deux nouveaux invités, le My Rockers numéro 43 avec Emmanuel Desnaux qui a choisi Paul Person, et en deuxième heure Jean-Christophe Panucco pour une carte blanche sur le thème pré-war blues et du live en studio avec la complicité d'Emmanuel Desnaux et de Mehdi Blues. Salut, bye bye.
Same old place.